Gloire à Dieu. Voilà, nous allons partager un thème intitulé « On ne choisit pas ses épreuves ». On ne choisit pas ses épreuves. Donc nous allons parler des épreuves profondes qui déstabilisent la foi, qui peuvent changer les gens et qui peuvent aussi, lorsque elles ne sont pas respectées, sortir les serviteurs de Dieu des voies du Seigneur. Je me suis toujours demandé pourquoi des gens que, quand vous voyez leurs anciennes prédications, ils ont une façon d'être, et quand ils réussissent plus tard, ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de succès, beaucoup de popularité, ils ne sont plus les mêmes. Pourtant, ils connaissent exactement les mêmes choses, ils connaissaient exactement les mêmes choses que nous. Donc c'est parce qu'on les a entendus autrefois prêcher, on les a vus se comporter de manière biblique. Et puis un jour, on les voit avec des tenues de pape, des tenues d'archevêque, on les voit avec des discours politiciens, on les voit différents de ce qu'eux-mêmes ils ont prêché autrefois. On les entend parler maintenant plus d'argent, plus de puissance que de Jésus. Pourtant, ces gens-là, autrefois, étaient différents. Ils étaient semblables aux apôtres Paul, Pierre et consorts. Et voilà, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'une des réponses, c'est le fait de résister aux épreuves de Dieu, donc de refuser l'épreuve du Seigneur. Et c'est ça qui a fait que ces gens-là ont fini par s'éloigner de Dieu. Tout se trouve, toutes les origines de toute l'histoire de l'humanité se trouvent comme le livre, il est aussi le premier, dans Genèse. C'est dans Genèse que nous trouvons les explications de tous nos problèmes, la source de tous nos problèmes. Et les épreuves ont pour objectif aussi de régler, de contribuer, hein, puisqu'il y a l'Esprit Saint, il y a la parole, il y a l'amour, mais les épreuves ont un rôle majeur de contribuer à la victoire sur le premier péché. La victoire sur le premier péché, c'est quoi plutôt? Le premier péché, c'est le fait que l'homme a voulu être l'égal de Dieu, le rival de Dieu, un autre Dieu. C'est ça le vrai péché. Donc c'est ça la source de tous nos autres péchés viennent de ce péché-là. Le fait de se croire autonome, capable d'être un rival de Dieu, de se croire fort. Voilà, tout vient de là. Et nous avons vu les conséquences hein, après ce péché-là. C'était la désolation dans l'humanité. Et bien, c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Ce péché-là est très fort. Nous rappelons que lorsque Jésus nous a sauvés, il n'a pas changé notre âme et notre chair. Il a régénéré notre esprit. Donc c'est quelque chose que nous devons appeler pour expliquer la suite. Jésus a régénéré notre esprit. Nous avons reçu un esprit nouveau. Mais l'âme et la chair sont restées telles qu'elles sont. Et elles vont connaître leur transformation. Donc le corps et l'âme vont connaître leur transformation le jour de la résurrection finale. Quelle est la conséquence de ça? C'est que tout l'ensemble, corps, âme, esprit, est devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que Dieu a doté l'esprit nouveau qu'il nous a donné de la capacité, par la parole de Dieu, à vaincre le reste, à vaincre la chair, à vaincre le corps et l'âme, à diriger ces deux-là dans les objectifs divins. Sauf que c'est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ». Sauf que pour que cet esprit soit suffisamment capable de vaincre la chair, de vaincre l'âme et le corps, il faut qu'il fonctionne selon la parole de Dieu. Il faut qu'il fonctionne selon l'humilité, donc c'est-à-dire considérer Dieu comme berger, se laisser conduire par Dieu. Donc l'Esprit Saint doit conduire l'esprit de l'homme qui est renouvelé afin que celui-ci soit capable de dompter le reste, l'âme et le corps. Et donc Et pour cela, ça demande de l'humilité. Donc l'être humain doit être suffisamment humble comme il devait l'être le jour où il avait péché, donc à travers son papa Adam. Ce jour-là, il fallait que Adam soit humble pour dire à Satan, « Dieu est mon Dieu, je ne chercherai jamais à être son égal, il reste mon Dieu. » Il fallait qu'il soit humble ce jour-là, il ne l'a pas été, il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu être un autre Dieu. Et les épreuves, ça contribue à nous briser afin qu'il n'y ait qu'un seul Dieu clair dans nos cœurs. Ça, un des rôles des épreuves, c'est ça, c'est nous empêcher de recommettre le premier péché qui est de se prendre pour Dieu. Mais nous devons reconnaître que quand elle vient, je veux dire certaines épreuves, elles sont parfois très difficiles, elles nous vident complètement, elles peuvent nous terrasser. Est-ce que le but de Dieu, c'est de nous faire du mal? Non. Dieu connaît la profondeur de notre être. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'un monsieur comme Paul. Paul dit, c'est une chose certaine, 1 Timothée 1,15, il dit, c'est une chose certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Or, entre nous, si nous devons considérer les premiers pécheurs, nous ne nous mettrons pas Paul. Nous savons comment il a vécu sa vie pour le Seigneur. Il a tout donné pour Dieu, au point même de ne pas se marier. Donc nous considérons, nous les chrétiens, Paul comme parmi les géants de Dieu, les gens qui ont servi Dieu sérieusement, dans la vérité. Voilà. Mais lui, Paul, se dit être le premier des pécheurs. Pourquoi il se dit être le premier des pécheurs? Parce que justement, en étant un vrai serviteur de Dieu, il a appris à connaître la chair, et donc l'âme et le corps. Il a appris à connaître ça. Il a appris à comprendre que c'est vraiment pourri. Donc l'âme et le corps de n'importe qui, c'est vraiment pourri. Et que si l'esprit n'est pas là pour dompter la chair, ben ça va ressortir des choses les plus horribles. C'est pourquoi Paul, voyant son âme et son corps dans la vérité, dans la dimension que Dieu l'a fait atteindre, il s'est vu lui-même, il sait qu'il est pourri en son âme et en son corps. C'est vraiment le péché, c'est grave. Et c'est pourquoi il dit, je suis le premier des pécheurs. Donc, Dieu sait que si il connaît cette profondeur-là, comme Paul a su cette profondeur, Dieu qui nous a créés connaît cette profondeur. Alors, il y a certaines épreuves que nous n'allons pas comprendre. Nous allons dire, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tu ne te connais pas dans la profondeur, parce que tu ne connais pas la profondeur de la chair, parce que tu ne mesures pas le combat qu'il y a eu dans le jardin d'Éden où Satan a vaincu Adam en lui proposant d'être Dieu. Tu ne mesures pas la puissance de cette convoitise de divinisation. C'est une grande convoitise et Dieu sait que ça peut germer chez tout le monde. Et Dieu peut le voir déjà commencer à germer et il viendra nous briser. Et nous allons dire, mais j'ai fait quoi? Quel est le problème de Dieu? Il veut me briser en fonction de quoi? Je n'ai rien fait. Mais Dieu sait comment ta chair est en train déjà de se corrompre. Il le voit et il vient. Il sent l'orgueil déjà monter. Il sent les choses même qui vont arriver après 10 ans. Il sent que ça monte. Il vient nous calmer avec une épreuve. Aujourd'hui, nous parlons plus des épreuves qui nous font mal au point que nous nous mettons en conflit avec Dieu lui-même parce qu'on ne comprend pas. Vous savez, il y a plein de choses, nous-mêmes on a confessé, on a témoigné rapidement, je veux dire rapidement, nous disons, ah mais Dieu a voulu me briser, rapidement, hein, tu comprends, tu passes. Mais il y en a, quand ça tombe, tu sens comme si on t'a tué. Il n'y a que la mort qui peut être la bonne image, c'est comme si on t'a tué. Quelle honte! C'est comme si tu n'existes plus. Je me souviens quand il y a eu le Covid, pour cette, c'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer l'épreuve de l'autre. Parce que comme on voit aujourd'hui, on ne choisit pas ses épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épreuve que Dieu va t'envoyer pour te vider, eh bien, tu ne l'auras pas prévue. Puisque si tu l'avais prévu, ça devient un exercice, ce n'est plus une épreuve. Un examen en fin d'année ou pendant les études, mais si tu le connais à l'avance, est-ce que c'est vraiment un examen? Est-ce que tu vas étudier, si tu connais l'examen à l'avance, est-ce que tu vas étudier tout ton cours? Non, tu vas préparer que cet examen-là. Donc ce n'est plus un examen. Voilà. Donc, quand Dieu va nous envoyer cette épreuve-là, ça sera comme une surprise. Donc, on ne s'y attendait pas. C'est ça la vraie épreuve, la forte. Je ne parle pas des simples épreuves que nous-mêmes nous remarquons facilement, nous acceptons facilement. Il y a des vraies épreuves, les fortes, qui créent une incompréhension avec Dieu, qui créent comme un conflit avec Dieu. Et on a l'impression que c'est provoqué par Dieu lui-même, ce conflit, cet éloignement, ce problème. C'est-à-dire que quand il y a l'épreuve, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Il nous a abandonnés. Et c'est pourquoi nous allons prendre le texte principal, le texte du Seigneur lui-même. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Effectivement, il avait abandonné. Et donc, pendant l'épreuve, Dieu va nous abandonner pour nous épuiser, pour nous soutirer tout ce qui est énergie personnelle, parce que lui veut que nous dépendions de son énergie à lui. Et donc dans l'épreuve, il va nous abandonner pour que tout ce que nous avions comme énergie personnelle s'épuise à vouloir faire la volonté de Dieu, à vouloir faire le bien, et bien que tu t'épuises, tu veux te forcer à dire « je bénis Dieu malgré tout, mais ça ne vient pas ». Donc ça, tout est épuisé jusqu'à ce que tu dises « bon, Dieu, je ne compte que sur toi ». C'est là le but final, finalement. C'est Dieu qui est ton sauveur, c'est lui qui est tout pour toi. Le but final, c'est que tu dises ben, « Dieu, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux ». Tu as un droit infini sur moi. Voilà, c'est que le but final de ce genre d'épreuve-là qui produit une incompréhension, qui produit une lutte et qui a fait que certains, parfois, ont abandonné la foi. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas bon. Mais ils ont abandonné parce qu'en réalité, ils étaient dans un état qui était caché et l'épreuve a révélé cet état. Mais Dieu ne veut jamais que quelqu'un se perde. Si Dieu envoie une épreuve, c'est pour révéler notre état afin de nous amener au vrai salut qui dépend de lui-même. Donc, j'ai fait un résumé afin que nous comprenions le reste quand nous allons commencer à lire les textes. Nous commençons par Matthieu 27, 15 à 49. Matthieu 27, 15 à 49.
À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fait dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges, Jésus, il le livra pour être crucifié.
Voilà, première partie concernant ces épreuves qui nous surprennent, que nous ne comprenons pas, que nous n'acceptons pas, puisque nous ne comprenons pas. Et d'ailleurs, un des moyens faciles, c'est d'accuser Satan. Mais alors que c'est une épreuve qui vient de Dieu, c'est une sensation d'injustice. Comment entre un homme qui n'a jamais péché, qui n'a fait que du bien aux gens, et un terroriste, un bandit, on choisit, le peuple dit, libérer Barabbas. Voyez, mettez-vous à la place de Jésus qui est là devant, qui voit ce peuple qui l'a tant aidé. Il a fait du bien à ce peuple. Et on demande le choix à ce peuple. Vous voulez qu'on libère qui ? Le peuple dit Barabbas. Même le juge qui est devant, qui pose la question, il dit, mais Jésus, il a fait quoi de mal ? Comment vous... Au fait, même le juge dit, mais comment vous pouvez choisir un mauvais à la place d'un bon ? Injustice. Quand il y a ce genre d'épreuve qui nous atteint, je ne dis pas que forcément ça peut être des nouvelles très graves, ça peut être des nouvelles très graves. Ça peut être quelque chose de très simple, mais que nous comprenons. Voilà, nous avons même l'impression que c'est contre-productif par rapport au plan même de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il veut ? Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, il faut tuer ton fils. Oh, c'est contre-productif, puisque Dieu lui-même avait dit que c'est ce fils-là qui serait l'héritier. Mettez-vous à la place d'Abraham, c'est comme un vide qui te prend, tu te sens sauter dans le vide. Mais c'est pas possible. Mais c'est lui-même qui m'avait promis que c'est ce fils-là qui sera mon héritier. Ça déstabilise. Il y a une incompréhension, une forme d'injustice. Mais Isaac, il a fait quoi ? Pourquoi je vais le sacrifier, le pauvre petit ? Il a fait quoi ? Et même moi-même, Abraham, je me suis dit, mais j'ai fait quoi ? Où est le problème ? C'est ça qui arrive là. Jésus, vous allez me dire... Mais Jésus savait, oui, qu'on sache et qu'on vive, ce n'est pas exactement la même chose. Au fait, ce qu'on vit a une puissance plus forte que ce qu'on peut savoir. C'est pourquoi ce que nous allons lire, il va dire, pourquoi tu m'as abandonné ? Je crois qu'il a voulu dire à Dieu, mais je ne savais pas que ça va être jusqu'à ce point-là que tu vas m'abandonner. Il savait qu'il y aura une sorte de coupure. Mais vivre ça, ça a été autre chose. Il y a un verset dans Hébreux qui dit que Jésus, quoique parfait, il a été perfectionné par ses souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être parfait, oui, d'accord. Mais comment on va le savoir ? On te met les voitures, quand on doit lâcher une voiture, elle doit d'abord passer par une batterie de test. Donc quand elle est fabriquée, elle est neuve, mais elle passe un ensemble de tests avant d'être mise en circulation. Oui, donc tu es voiture neuve. Oui, mais on va savoir si tu es de bonne qualité. Allez, batterie de test. Mais tu es Jésus, le Fils de Dieu. Mais on va savoir. Allez, envoyez toute la batterie de souffrance. Ça, c'est autre chose que le savoir, que je vais passer par une batterie de preuves. Maintenant, quand tu vas le vivre, ces souffrances-là, ça devient autre chose. C'est pourquoi elle a dit, mais tu m'as abandonné, c'est vraiment la réalité. C'est très fort, c'est très dur, c'est très dur. Et là, tu es face à des gens que tu as aidés, même si tu savais que tu allais être livré. Mais là, vivre ça, une telle injustice, c'est très dur. Mais qui ne sait pas ? Nous tous, on a lu des choses, on a vu des films, on a entendu des choses, on a entendu des aphorismes, des phrases, des maximes, des proverbes, on en a entendu, on a entendu des conseils des gens qui nous ont dit « Oh, mais les gens ne s'attachent à nous que quand nous avons des moyens. » On a entendu tout ça. Mais quand tu vis ça, c'est quand même pas pareil. Quand tu vis que dès que tu n'es plus ministre, personne ne t'appelle. Quand tu vis ça, c'est pas la même chose que quand les gens te disaient avant que tu es devenu ministre. Oui, mais les gens t'aiment parce que tu es ministre. Mais quand tu le seras plus, tu verras, il n'y aura plus de coup de fil. Mais tu le sais comme ça. Mais maintenant, quand tu vis ça, même des gens qui se courbaient devant toi, et ils t'appellent plus, ils te disent plus bonjour. C'est pas pareil. Il faut qu'on comprenne que là, Jésus est en train de vivre des ténèbres immenses qui, autour de lui, déjà lâché par un peuple qui l'a aidé, c'est très difficile. Et condamné alors que il n'a rien, parce que le juge lui-même dit, il n'a rien fait de mal, mais alors pourquoi tu le condamnes? C'est écrit au verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Vous pensez que ça n'a rien fait à Jésus? C'est de l'injustice pure et dure, puisque le juge te dit en face que tu n'as rien fait de mal, mais il te condamne quand même. C'est un déchirement, mais c'est l'épreuve du Seigneur. Il fallait ça pour que nous soyons sauvés. Mais pour Jésus, c'était la grande épreuve qui peut nous arriver à nous tous. Une grande épreuve, une épreuve profonde. On comprend pas, mais j'ai fait quoi? Mais il y a un but. Le but premier, c'est que Dieu soit souverain sur notre vie. Après tout, nous sommes à lui. Le but deuxième, c'est nous épuiser complètement de nos ressources personnelles. Le but troisième, c'est de nous humilier devant lui, qu'on le rende à lui seul la gloire. Et le but quatrième, c'est que nous soyons attachés qu'à lui, qu'il soit notre salut. C'est ça le but de tout ça. Dieu va veiller à cela. Il sait que notre bonheur se trouve en lui, alors il va nous briser complètement afin que nous nous attachions davantage à lui. C'est ça le but de l'épreuve. Le but final, c'est celui-là. Nous lisons verset 27. À partir de verset 27.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le...
Voilà, l'épreuve continue. Il est lâché par un peu, tout le peuple. Il est condamné injustement. Mais quand c'est comme ça, quand ça arrive comme ça, c'est comme si tout s'écroule autour de nous. Donc les soldats commencent à se moquer de lui, à le frapper, couronné d'épines. On dit, mais tu es le roi des Juifs, alors on te met une couronne d'épines. Mais toi, c'est vrai que tu es le roi des Juifs. Mais regarde comment on te traite. C'est quelque chose de surprenant, de brutal. Ça brise complètement la personne. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Jésus. Vous savez, je comprends Jésus quand il dit dans le psaume 22, « Moi, je suis un ver. » Il est devenu comme un ver de terre. Voilà, c'est ce qui arrive. N'importe qui se moque de toi, crache sur toi, te gifle, te met... Tu es devenu comme un déchet. C'est ça que Jésus était devenu en ce moment-là. Les moqueries viennent même de la part de soldats. Nous continuons, 32.
Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé au fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière.
Voilà, c'est la totale. Il n'y a pas un seul coin de compassion, une seule partie. Entre parenthèses, souvenez-vous, dans d'autres textes, c'est dit que les disciples ont fui. Ils l'ont laissé tout seul. Entre-temps, Pierre l'avait renié aussi. Vous vous rendez compte dans quel état se trouve Jésus? Son apôtre préféré le renie. Les autres fuient. Et là, nous arrivons. Pour certains, c'est rien. Mais pour d'autres, ils comprendront que c'est très difficile pour un costaud de craquer. Vous savez, Jésus, c'était un grand, un costaud. Mais là, son corps était devenu tellement faible qu'il n'arrivait plus à porter sa croix physique, la croix là, le bois, il n'arrivait plus. Et c'est un autre qui est venu porter pour lui. Alors je peux vous dire que ça, c'est une grande humiliation pour quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand, parfois, même dans la défaite, il veut vivre la défaite avec fierté, tenir. Vous voyez, nous voyons des marathoniens, hein, donc même qui ont eu un problème peut-être physique pendant le marathon, il y en a qui vont faire 5 heures du temps, au lieu de 2 heures, ils vont faire 5 heures, mais ils veulent à tout prix finir, et on les laisse finir par honneur, par fierté. Mais Jésus n'a pas pu finir. Quelle honte. Il n'a même pas été suffisamment costaud pour porter sa croix physique, la croix, le bois, jusqu'à... C'est une grande honte. C'est une grande honte. Et c'est ça, dans l'épreuve, tu vas te retrouver dans une faiblesse où tu n'arrives même plus à faire ce que les gens que toi tu considères faibles pourraient faire. Et toi, tu n'arrives plus. Et c'est ce qui arriva à Jésus. Quelqu'un d'autre porte sa croix. On arrive, on prend ses vêtements. Les passants, ah! Vous voyez, il y a des gens, on ne comprend pas quelle est leur affaire, ils se mêlent de tout ça, ils commencent à t'injurier. C'est écrit, comment même les passants commencent à l'injurier au verset 39. Les passants l'injurier. Mais de quoi il se mêlait? Et secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Quelle honte! Dans l'épreuve, il y a la moquerie des autres. Ou parfois les autres ne t'ont pas encore vu, mais toi tu t'imagines combien ils vont se moquer de toi s'ils apprennent dans quoi tu es. Et tu es mal, puisque tu... C'est comme si tu les entends parler, non, sans compter les démons. Parce que les démons peuvent parler, et tu les entends parler et te moquer de toi. Et Jésus était en train d'entendre en même temps les démons parler et se moquer de lui. Les passants, ses ennemis directs, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, ceux qui ont poussé le peuple à demander sa condamnation, eux aussi se moquent. Tu vois tes ennemis triompher devant toi. Ha, ha. Nous t'avons eu. C'est ce que Jésus est en train de vivre. Vous savez, je dis tout ça parce que pour aller jusqu'au bout avec Jésus, on passera par ce genre d'épreuve. Maintenant, quand ça va arriver, comportons-nous comme Jésus. Ne laissons pas la colère prendre le dessus. L'orgueil prendre le dessus. Tu vas commencer à mentir parce que tu ne veux pas que les gens connaissent ton état. Tu vas commencer à haïr les gens qui ont l'impression, qui donnent l'impression de n'avoir aucun problème. La jalousie va s'installer envers les autres. Tu vas commencer à juger que Dieu est injuste et plein d'autres choses. Parce que ce n'est pas facile d'affronter les moqueries. Les moqueries sont là. Ce qui est rigolo, ce qui est grave, c'est que les gens même qui partagent son sort se moquent de lui. Des gens qui sont crucifiés comme lui disent, « Ah, mais nous on est des bandits, mais toi qu'est-ce que toi là ? Tu as trop parlé et tu te retrouves dans la même position que nous. » Voilà. Les gens même qui partagent ton sort se moque de toi. Et Jésus est en train de vivre des ténèbres collectives. Au fait, ce que nous sommes en train de lire, c'est la plus grande épreuve qui ait jamais existé dans l'humanité. C'est Jésus qui l'a subi. Un abandon de Dieu et une charge collective de l'humanité, des démons, des circonstances, de l'environnement, tout contre lui, tout est contre lui. Tout est contre lui. C'est ça la plus grande épreuve. Et ça peut nous arriver, ce genre d'épreuve, à une autre manière. Ça peut nous arriver. D'ailleurs, comment les gens sont devenus, beaucoup sont devenus des prostituées, mais parce qu'elles ont vécu une épreuve de ce genre, où elles ont eu l'impression d'avoir été vidées de ce qu'elles avaient comme honneur, comme fierté, elles ont préféré tout gâcher. Vous savez, il y a des gens, on leur a dit, voilà les résultats médicaux, dans la colère d'un tel résultat mauvais, des examens, ils se mettent dans l'alcool, dans la drogue. Il se dit, bon, si c'est comme ça, eh bien, je me tue moi-même, mais dans des bêtises. Voilà. Donc, c'est la colère de l'épreuve. Voilà. Et Jésus devait résister à tout ça, dire, bon, non, j'appartiens à mon Dieu. Nous lisons 45 jusqu'à 50, jusqu'à 49. 45 à 49.
Depuis la sixième heure, jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. »
Voilà, il se retrouve encore dans cette situation où les ténèbres physiques, j'ai dit, même l'environnement se mêle de l'affaire. L'environnement devient ténébreux. Voilà l'épreuve du Seigneur. Des ténèbres physiques qui montrent clairement que tu as un problème. Tu es foutu, c'est fait pour toi. Il est dans ça. C'est là qu'il dit trop, c'est trop. Mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà. Là, il a épuisé toute son humanité, toute sa force humaine s'est épuisée. Et il s'est ramené au but ultime de l'épreuve. Mon Dieu, que nous puissions dire mon Dieu. Dans mon Dieu, il y a, c'est toi qui es tout pour moi. C'est toi qui es mon Dieu. C'est-à-dire, c'est toi ma source. C'est toi ma vie. Donc quand il dit mon Dieu, c'est ce que nous avons envoyé comme pensée du jour. Nous avons dit quand Jésus dit qui comme ça, pourquoi tu m'as abandonné, il ne perd pas de connexion avec Dieu, il ne perd pas de conscience plutôt. Hein. Il ne perd pas de conscience que Dieu est son Père. Il n'entre pas en rébellion. Il est dépassé par l'abandon, par la souffrance. Mais les deux mots, les deux phrases répétées, mon Dieu, montre que il croit toujours en lui, il compte sur lui, il se repose sur lui, il sait qu'il est son papa, il sait, il n'a pas perdu ça. Il est dépassé par l'épreuve, mais il n'a pas perdu son lien avec son père. C'est pourquoi il dit, mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est ça le but finalement de dire, bon, j'appartiens à Dieu, que Dieu tranche, que Dieu s'occupe de tout. Je n'en peux plus. Parce que vous savez, quand l'épreuve vient, on essaye, on a entendu des conseils. Ah, il faut prier, il faut lire la parole, il faut écouter certaines prédications. Tu as fait tout ça, mais tu sens toujours une faiblesse, un vide. Et c'est là que tu dis, oh Seigneur, je suis épuisé. Toi seul peux me garder, toi seul peux me sauver. C'est ça le but final. Parce que Dieu prépare de grandes choses avec toi. Il veut que tu apprennes que ça viendra de lui, que tu es rien du tout. C'est pourquoi il a permis cette épreuve. L'épreuve est venue avant la résurrection de Jésus. Voilà, un miracle extraordinaire. Jésus dit « mon Dieu ». C'est ça le but final, c'est que nous disions « mon Dieu, je n'ai que toi ». Toi seul peux me secourir, toi seul peux me porter. Je m'abandonne à toi. Que, là, tu ne regardes personne, tu ne regardes pas les ténèbres, tu ne regardes pas les moqueries, c'est maintenant face à face avec lui seul. C'est une affaire personnelle. Tu deviens connecté qu'à Dieu seul. Tu plonges en lui et tout va changer en ce moment-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes distraits par notre environnement. Tous les jours, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons des objectifs d'évangélisation. Oh, je parle même des chrétiens. On a des objectifs d'évangélisation, des objectifs de construire. On a plein d'objectifs. On a mis ça dans l'affaire avec Dieu. Et d'un coup, tout s'écroule. Eh bien, tu ne restes qu'avec Dieu seul. Et c'est ça qu'il veut. En fait, il veut nous dépouiller de tout ce qui était devenu comme une forme de second Dieu dans notre vie. Il veut nous dépouiller de ça par l'épreuve forte. Il nous dépouille de tout ce qui était devenu comme second Dieu afin qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, lui seul. Mon Dieu, je n'ai que toi. D'ailleurs, c'est comme ça que le psaume 73 finit. Hein, un serviteur de Dieu qui se plaint que Dieu l'a abandonné aussi et que le méchant se porte bien et lui qui est juste, il se porte mal. Et il est dit que quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, donc dans l'intimité avec Dieu, donc quand il a pu dire « mon Dieu », en ce moment-là, tout est devenu clair. Au fait, le but, c'était de l'épuiser de toute sa philosophie, comment il pense à Dieu, comment toute la philosophie humaine qui s'est rajoutée à la foi en Dieu. Il fallait qu'il soit dépouillé de ça, afin qu'il ne reste qu'avec Dieu seul. C'est ça le but. Et quand tu restes qu'avec Dieu seul, ben tu le reçois lui entier, tel qu'il est. Alors que quand on a beaucoup de choses qu'on a rajoutées, ce ne sont pas des choses mauvaises qu'on a rajoutées. Évangéliser, ce n'est pas mauvais. Chanter pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais parfois, ces choses-là deviennent comme un second Dieu. Ça devient comme une sorte d'affaire personnelle. Et Dieu voudra que nous comprenions que non, il doit être tout dans tout ça. Il doit être total dans tout ça. Et va nous vider par une épreuve forte comme celle-ci. Et comme nous avons dit, une épreuve peut être forte pour quelqu'un, mais paraître faible pour l'autre parce qu'il ne vit pas ça. Il y a des gens qui ont perdu l'odorat pendant le Covid. Pour eux, ce n'était pas très grave, c'était un peu gênant. Mais il y a des gens comme moi, quand j'ai perdu l'odorat pendant un jour seulement, j'ai fait comme ça, j'ai appuyé sur le parfum, je n'ai pas senti d'odeur. Pour moi, c'est comme si je n'existais plus. J'ai eu envie de me suicider tel que vous me voyez là. Pour quelqu'un d'autre, ça paraissait, bien, c'est pas grave. Bon, je perds l'odorat, mais je mange, je vis. Mais moi, j'ai eu l'impression, comment je ne sens pas d'odeur? C'est comme si c'est moi qui n'existe pas. C'est ça que ça m'a amené comme conclusion. C'est toi qui n'existe pas parce que tu sens rien. Et donc, je dis, mais autant se tuer. Mais il fallait encore lutter dans la prière pour résister. Ce sont des réalités. Donc, l'épreuve peut être simple pour toi, une épreuve, mais attention, Dieu, comme on a dit, notre titre, c'est quoi? On ne choisit pas ses épreuves. Du coup, quand ça arrive sur quelqu'un, c'est fait, c'est permis pour l'épuiser, lui. C'est pourquoi on est étonné, on est surpris à chaque fois. Alors qu'on se croyait fort, on se croyait bien bâti spirituellement, on est surpris que ce n'est pas le cas, mais puisque Dieu savait là où il doit frapper pour toi. Donc on ne choisit pas. Dieu frappera de manière que tu sois épuisé. Voilà, c'est ça. Et puisque si tu choisissais, tu ne seras pas épuisé. Tu choisiras l'épreuve qui te sied. Voilà. Et nous lisons Job 2, 1 à 10. Voilà la réaction qu'il ne faut pas avoir. Job 2, 1 à 10. Quelqu'un qui a connu une épreuve terrible après Jésus. On ne dit pas que c'est Job, ce n'est pas nous qui classons, mais en tout cas, en notre connaissance, Job fait partie des cinq qui ont connu les plus grandes épreuves après Jésus. de manière objective, de manière subjective, comme je vous ai dit, moi, l'anosmie m'a donné envie de me suicider. Donc, c'est la subjectivité, mais de manière objective, Job a connu plus quand même. Il a perdu ses enfants, tous ses enfants, il a perdu toutes ses richesses. Voilà ce qui se rajoute au chapitre 2.
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ?» Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Po, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres.
En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est ça que nous devons avoir comme première réaction, ne pas pécher par nos lèvres, ne pas accuser Dieu, injurier Dieu, insulter Dieu, mettre en doute Dieu. Oui, nous sommes dépassés, mais que nos lèvres ne disent pas n'importe quoi sur Dieu. Préservons-nous. Et ce sont des choses qui peuvent arriver, que nous soyons poussés à maudire Dieu. Cette femme-là, ce n'est pas forcément qu'elle détestait Dieu. Mais quand on t'a privé, tes enfants sont partis, vos richesses sont parties. Ce n'est pas simple. Et là, maintenant, c'est la santé de Job qui est attaquée. Vous savez, la santé, comme Satan le dit, hein, la santé, c'est la chose la plus précieuse pour un être humain. C'est pourquoi, quelle est l'industrie la plus grande au monde ? C'est l'industrie pharmaceutique. Allez vous informer sur Internet. C'est l'industrie pharmaceutique qui est la plus grande au monde. Plus que les armes, plus que les avions, c'est l'industrie pharmaceutique. Parce que l'homme tient à sa santé. L'homme tient à sa santé. On a même pris les enfants. Mais si tu touches à sa santé, tu vas voir, il va réagir mal. Et Dieu dit, tu peux toucher à sa santé, mais quelle maladie lui envoie un ulcère malin. Tu te dis, mais ça vient d'où ? Terrible, il prend un tesson de bouteille, il commence à se gratter avec. Sa femme dit, là, il faut juste maudire Dieu. Il dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Quand j'étais bien, c'est lui qui m'avait donné. Là. Vous voyez, le raisonnement de Job est excellent. Il dit, mais quand j'étais bien, qui m'avait rendu bien, c'est Dieu. Pourquoi je vais changer de position quand je suis mal ? Il fallait que, quand j'étais bien, que je conteste en ce moment-là. Je ne peux pas contester, dire qu'il est Dieu. Avant, dire qu'il est Dieu et aujourd'hui contester, dire qu'il n'est pas, puisque je suis mal, non. Je m'attends à lui. Et Job nous lègue un verset, le livre de Job nous lègue un verset extraordinaire. On voit ça dans Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà. Tu te dis, bon, moi je suis fini. Je suis fini. Je suis fini, mais mon Rédempteur, il est vivant. Dieu, lui, il est vivant. Tout le monde se moque de moi. Je suis un ver. Lisons Job 19, 25.
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Et tu es fini, mais tu te dis, mais bon. Vous savez la phrase de Jésus, n'oublions jamais ça. Mon Dieu, tu dis, mon Dieu, il ne reste plus que toi. Je sais que tu existes. Pourquoi il dit, quand il dit mon Dieu, donc il sait qu'il est là. Voilà. Et quand il dit mon Dieu, c'est son Dieu. Donc il y a un lien entre les deux, très fort. C'est son Dieu. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, voilà Job qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même chose. Moi, je suis fini, mais mon Rédempteur est vivant. Vous voyez, ne maudissons pas Dieu. Ne faiblissons pas dans notre marche. Ramenons Dieu dans nos cœurs à 100%. Disons, bon, comme il en est ainsi, je vais le chercher à fond. J'écoutais un pasteur qui expliquait que comment une femme qui a, elle a fini par tomber enceinte par miracle, parce que elle était enceinte et vous savez, en Afrique, dans certains coins, son bébé étant mort, ben, on ne l'a pas sorti à temps, du coup ça a pourri ses organes. Donc quand on a sorti le bébé mort, eh ben, on a enlevé aussi tous ses organes de reproduction. Je crois que l'utérus a été enlevé. Et donc, il dit, ah bon ? Quand elle se réveille, son mari lui donne la mauvaise nouvelle. Elle dit, ah bon ? Dans ce cas, je vais chercher Dieu. Voilà. Vous voyez, quelqu'un qui se dit, mais là, la médecine m'a tué, la grossesse m'a tué, ben, il ne me reste plus qu'à chercher Dieu. Et elle a fini par accoucher plus tard. Parce qu'elle a cherché Dieu à partir de cette épreuve grave. Elle a dit, bon, dans ce cas, je vais chercher Dieu. Mais il y en a, comme la femme de Job, qui vont dire, dans ce cas, je vais chercher Satan. Dans ce cas, je vais chercher les féticheurs. Dans ce cas, je vais changer de médecin. Mais elle s'est dit, ben, si c'est comme ça, je vais chercher Dieu. C'est ce qu'on doit se dire dans l'épreuve extrême, ben, je vais chercher Dieu. Voilà. Et s'il n'y a pas la force, on se tait. On ne dit pas de mauvaises choses. On dit, Seigneur, je suis fini. On dit, Seigneur, je suis comme Lazare. Je suis mort. Mais tu l'as ressuscité 4 jours après. Je suis comme le monsieur de 38 ans, de paralysie. Tu l'as guéri. Je suis comme l'aveugle-né. Mon état, c'est le même. Je suis comme la femme prostituée de Luc 7. Je suis pareil. Je suis comme la femme adultère. Mon état, c'est le même. Donc, c'était des gens désespérés. Tous ces gens-là que je vous cite, c'était des gens désespérés par leurs problèmes. Mais Jésus-Christ a triomphé de cela. Eh bien, on dit au Seigneur cela. Je suis comme Zachée, voilà, un grand voleur. Voilà, je suis désespéré. Tout le monde me déteste. Voilà. C'est ça, nous exprimons comme ça. Ne cherchons pas, alors que Dieu cherche à nous épuiser, nous on veut montrer encore qu'on est fort. Mais là, ça va durer. Hein. Bon, capitulons, disons, mais Seigneur, il ne me reste plus que toi. C'est tout, il ne me reste plus que toi. Parce que la grande victoire arrive, que nous allons lire dans Luc 24, 1 à 8. Luc 24, 1 à 8.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les anges disent aux dames, vous croyez quoi? Le vivant peut mourir, le vivant ne peut pas mourir. C'était une épreuve pour votre salut, pour le salut de l'humanité. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu crois? Que Dieu va abandonner son enfant que tu es? Mais tu t'es trompé? Dieu ne va pas abandonner son enfant. C'est son enfant. Vous savez, je vous ai dit qu'une fois, quand on a parlé de la femme, qui avait les deux femmes qui sont venues voir Salomon pour dire « le bébé de l'un est mort et l'autre a volé mon bébé, et le bébé de l'une est mort et l'autre a volé. » Et Salomon a dit « bon, pour que trancher à égalité, bon, on va couper l'enfant en deux, on va donner un morceau à chacun. » Mais il est écrit que les tripes de la vraie maman ont tressailli, ont bougé. Alors le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est la même chose qui est arrivée quand Adam a péché. Dieu a... Ses tripes ont bougé. C'est pour montrer son amour pour l'humanité, pour l'homme. On m'a dit, les tripes de Dieu ont bougé. Dieu aime l'homme. Et vous pensez que si déjà il aime l'homme, il va laisser tomber un de ses enfants, impossible. Parce que les épreuves, c'est pour ses enfants. C'est impossible. Il y aura la résurrection. Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu ne me laissera pas tomber. Jean Schwab a connu ce genre d'épreuves. J'appelle ça les épreuves. Tu ne comprends rien. C'est un vrai chrétien, Jean Schwab. Un vrai chrétien. Mais suite à un accident de train, le train a fait un accident, lui il était dedans, sa colonne a subi des dommages. Il a fait 3 ans en passant d'hôpital en hôpital. 3 ans. Et la 3e année, il a été alité environ 5 à 6 mois. 5 à 6 mois alité. Vous savez, quand vous êtes alité comme ça, il y a les escarres, il y a les... Et un jour, le médecin, vers... Le soir, il dit aux infirmières, cet homme ne passera pas la nuit. Jean Schwab entend. Il est mal en point, mais il entend. Il ne passera pas la nuit. Je signe son acte de décès à l'avance, afin que vous ne me réveilliez pas pour venir signer ça. Donc quand il mourra, vous mettrez seulement l'heure. Jean Schwab entend ça. Est-ce que vous vous imaginez une telle épreuve pour un vrai chrétien, pendant 3 ans, c'est-à-dire, vous savez, la Suisse, ce n'est pas la France. La Suisse, quand tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Pendant 3 ans, il ne travaille pas. Pendant 3 ans, il ne marche plus comme il faut. Il a des marches à louper maintenant à cause des dommages sur ses os, sur sa colonne vertébrale. Pendant 3 ans, les antidouleurs. Pendant 3 ans, les hôpitaux. Vous voyez, la honte pour les chrétiens de venir là. Moi, ça fait partie de mes plus grandes hontes d'aller voir un médecin. Je me dis, mais c'est quoi ça? Donc, je vais aller voir un homme. Mais voilà, mais Dieu peut nous briser ainsi. Tu es là, tu changes encore de médecin. Et puis, à un moment donné, tu te dis, mais le médecin a vu que j'ai mis un t-shirt Jésus, il doit se moquer de moi. Il dit, mais que ton Jésus, pourquoi il ne fait rien pour toi? Mais doit-on ne plus mettre le t-shirt pour ça? Non, il faut toujours mettre. Dieu se défendra lui-même. Il se défendra. Il y a des moments où je dis, mais je vais aller voir le médecin avec mon t-shirt, il va se moquer de moi. Je dis, mais je ne vais pas changer, je mets toujours. Jésus est réel. Je suis honteux, je suis brisé, je suis humilié de voir que mon Seigneur ne m'a pas guéri. Il faut que j'aille demander de l'aide à la médecine. Mais c'est le brisement. Et Jean Schwab, lui, il est passé de médecin en médecin, d'hôpital en hôpital. Quelle honte! Quelqu'un de connu comme étant un vrai chrétien. Et vous savez, entre-temps, les gens, c'est ce qu'ils vont dire, même dans les églises, certainement il a péché, certainement il a fait une erreur, certainement. Même les plus proches vont commencer à douter. Mais comment Dieu... Alors que nous avons lu le texte sur Jésus, Jésus, les gens ont dit, mais certainement, il est mauvais, comment il a fini comme ça? Et vous allez voir que quand un chrétien est abattu par les épreuves, il y a d'autres chrétiens qui rajoutent encore le poids pour dire, ah, il se croyait spirituel. Et c'est l'épreuve de... Et vous pensez que Dieu va laisser les choses comme ça? Jamais. Il va se glorifier. Tout ça, c'est un plan de glorification de Dieu. Mettez-vous à la place de Dieu. Vous, vous allez laisser qu'on se moque de votre enfant, alors que vous, vous le formiez, les souffrances, c'est vous qui avez provoqué pour l'amener à une certaine étape. Tout le monde s'est moqué de lui. Vous pensez que Dieu, vous allez laisser que cet enfant-là... Non, vous allez faire que dans sa formation-là, il devienne premier ministre. Je vous ai dit aux gens, vous voyez pourquoi il souffrait, c'est pour être ça. Voilà. C'est ce que David dit. Il va dresser une table autour de mes ennemis. Il va montrer que lui, il est grand. Et que ses enfants sont avec lui dans la grandeur. Dieu ne nous laissera pas tomber, bien-aimés, mais négocions l'épreuve comme Jésus, comme Job, négocions l'épreuve de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers. Tous les vrais serviteurs de Dieu sont passés par là. Nous clôturons avec le texte de Paul dans 2 Corinthiens 6, 4 à 10. Il montre qu'il est passé par toutes sortes d'épreuves. Mais ça, ce n'est qu'un passage. Il en parle aussi dans 2 Corinthiens 11. Il ne parle pas que dans 2 Corinthiens 6. Et il parle ailleurs de toutes les épreuves qu'il a connues. 2 Corinthiens 6, 4 à 10.
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses.
Voilà, toutes sortes de misères, tu vois les faux serviteurs prospérer. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu, les trahisons? Il explique la mauvaise réputation même. Il dit, mais en réalité, je suis bon, mais j'ai une mauvaise réputation parce que les gens l'ont créé. Mais Dieu n'a rien fait pour empêcher cela. C'est la construction divine afin qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Vous savez, Jean Schwab était là, chaos. Même le médecin vient de mettre le dernier clou. Voilà, il va mourir avant le matin. Bien-aimé, le peu d'énergie qui nous reste, le peu de conscience, pardon, qui donne, parce que là, il n'y a plus d'énergie. Le peu de conscience qui nous reste, utilisons ça. La conscience qui a fait dire à Jésus, mon Dieu, c'est ça qu'on doit utiliser. Mon Dieu, Jean Schwab a dit, ah Seigneur, tu vas me laisser vraiment mourir comme ça? Fais quelque chose, sauve-moi. Il ne pouvait dire que ça, il était KO, puisque d'ailleurs on dit qu'il va mourir. Mais lui, il entend ça, un couteau de plus dans le dos. Comment on peut se moquer? Même un médecin peut se comporter comme ça. Et quand il a crié comme ça, il a dit, j'ai rassemblé toute la petite conscience que j'avais, j'ai parlé au Seigneur. Tu ne vas pas me laisser mourir comme ça quand même. La chambre a été illuminée de la gloire du ressuscité. Jésus est entré. Jésus lui a dit, lève-toi. Il a dit, mais Jésus, je ne peux pas. Il a donné la main. Il a dit, j'ai senti une électricité entrer en moi. C'est comme si on réparait tous mes os. Donc, on a réparé ces os rapidement, certainement par là. Le Saint-Esprit qui a réparé ces os. J'ai senti mes os craquer, se réparer. Et puis, d'un coup, tout est fini. J'étais devenu normal. Et le lendemain, quand le médecin arrive, Il voit les gens en train de sourire. Il dit, alors, il est mort. Il dit, mais allez, on lui a dit, va voir dans la chambre. Il entre dans la chambre, il voit Jean-Choix Bassi en train de sourire. Et ça a été un témoignage dans tout l'hôpital et dans toute la Suisse. Dieu est grand, il se défendra. Il ne laissera pas tomber son enfant. Alors, s'il ne te laissera pas tomber, toi, ne le laisse pas tomber. Ne le laissons pas tomber. Accrochons-nous. Disons comme la dame qui avait perdu son utérus. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, mais je vais chercher Dieu. Voilà. Puisqu'il en est ainsi, puisque les Français ne veulent pas se convertir, moi, je vais chercher Dieu jusqu'à ce que j'entende au Parlement français, on parle de Dieu. Voilà. Puisque ma famille ne veut pas se convertir, mais je vais chercher Dieu. Puisque ma maladie ne veut pas partir, je vais chercher Dieu. Comme Jean Schwab, je me dis, Seigneur, tu ne peux pas laisser les choses ainsi. Que toutes ces épreuves nous amènent à nous humilier devant Dieu, à ne considérer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à le servir que lui seul, et à vaincre le péché d'Adam. Que toutes ces épreuves nous amènent à chercher la gloire de Dieu. S'il y a l'épreuve, c'est qu'il y a la gloire de la résurrection qui est préparée pour toi. Et afin que tu ne tombes pas dans l'orgueil, Dieu a mis l'épreuve avant cette gloire-là. Assume l'épreuve, assume la honte. Il est dit de Jésus qu'il a méprisé la honte. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est pas grave, mais il faut que je sauve mes humains. Voilà. Il était accroché à la croix devant ses ennemis, triomphateurs. Il a dit, c'est pas grave, les hommes vont être sauvés. Il y a la résurrection. Eh bien, il y a la résurrection pour nous également. Dieu ne nous laissera pas tomber. Voilà, accrochons-nous à lui au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous fortifies dans les moments où nous avons l'impression que le mal avance à l'aise dans le monde. Des mauvais présidents qui font tout ce qu'ils veulent, des femmes ou des hommes qui détruisent leurs enfants, des enfants qui sont dans des trafics de pédophilie à cause de la méchanceté des humains, ces gens-là paraissent libres. Comme le Puff Daddy américain, un prêtre vaudou, massacreur d'humains qui va être libéré de prison comme ça. Et ça déstabilise. Et sans compter les mauvaises nouvelles nous concernant et concernant notre environnement. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous as abaissés pour un petit temps et il y aura la résurrection. Mais avant cette résurrection, avant la manifestation de la gloire de la Pentecôte, aide-nous à tenir. Que nous acceptions d'être dépouillés de notre orgueil jusqu'au bout, de notre énergie personnelle pour dépendre totalement que de toi. Merci Seigneur de nous prendre en charge et de nous amener à chercher ta face jusqu'à la résurrection. De nous amener à nous incliner devant toi, de nous amener à reconnaître que l'épreuve a quand même contribué à montrer nos mauvais penchants. À comprendre, à proclamer que l'épreuve a été bénéfique, même avant de voir la gloire. Amène-nous à cette dimension, Papa. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.